Bonsoir à toutes, à tous. Voilà, parfois il y a des petits problèmes d'organisation, c'est pas grave, on commence un peu en retard. Après quelques jours de vacances, donc je vais reprendre brièvement ce que nous avons fait la dernière fois. Donc la première partie de notre parcours porte sur le rapport entre le Christ et tous les hommes, pour rappeler la formule du credo, pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Donc c'est le cœur même de l'anthropologie théologique, le rapport entre christologie et sotériologie. La dernière fois, j'ai développé l'essentiel du premier chapitre pour un élargissement du champ biblique et anthropologique de la sotériologie contemporaine. Et nous avons commencé à visiter très rapidement la théologie néo-testamentaire, paulinienne, johannique, la lettre de Pierre autour de cette question. Donc, vous voyez les trois thématiques à la page 27-28 avec un certain nombre de tensions à l'intérieur. Cet ensemble est très difficile à systématiser. Et si on tente de le systématiser, il y a toujours un peu le risque d'unilatéralisme et ce qui a donné dans l'histoire de la théologie et de l'Église, donc les tensions de type confessionnel qu'il faudra essayer de dépasser aujourd'hui dans un esprit œcuménique. Alors comment faire ça? Il y a au fond peut-être trois nouveautés importantes qui interviennent maintenant dans la sotériologie. Et la première chose, c'est l'enracinement de l'existence de Jésus dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, l'existence éthique des prophètes et de Jésus comme l'arrière-plan pour comprendre mieux le discours du salut. Et j'ai beaucoup insisté sur le passage d'un monde, d'un ordre cultuel et sacral où la justice divine est de l'ordre de l'adhésion à un ordre sacral déjà existant, et le passage vers l'éthique chez les prophètes, quand précisément la relation à autrui et à Dieu devient problématique. L'altérité de Dieu et d'autrui introduisant une question, une interrogation à jamais finie dans le cœur humain. Qui est mon prochain ? C'est au fond cette question qui commence donc à retentir dans le cœur humain et d'une certaine manière le sortir de lui-même. L'existence éthique s'inscrit dans le temps, elle exige la mémoire. Il faut se souvenir qu'on a été soi-même un jour en pays d'Égypte à la place de l'autre. Elle exige dans le présent l'accueil de la justice de Dieu, Dieu qui fait acception de personne, qui est cette formule magnifique du Deutéronome et qu'on retrouve dans la bouche de Pierre dans l'échange avec le centurion romain. Il y a une impossibilité qui émerge à ce moment-là de l'homme être éthique à la manière de Dieu. Et c'est là où se révèle au-delà du cultuel et de l'éthique, un excès, un plus, c'est-à-dire l'expérience de gratuité. Donc le passé, la mémoire, le présent et l'avenir, une attente, l'attente d'un cœur nouveau, se creuse alors, capable de réaliser un jour la justice de Dieu. Donc ça, c'est, si vous voulez, je dirais, un peu la première nouveauté par rapport au passé, de prendre vraiment au sérieux cette triade culte, éthique et ordre de foi, qu'on trouve d'ailleurs chez Kierkegaard, peut-être pour la première fois, d'une manière aussi explicite, et c'est sans doute une manière de pouvoir dépasser les réductions confessionnelles, je dirais, du passé. Alors la deuxième nouveauté, dans la sotériologie contemporaine, c'est le projet de prendre tout le récit de la vie de Jésus et de prendre d'abord tout le récit et de comprendre donc la théologie de Paul, de Jean et aussi de Pierre, de l'Apocalypse, de l'Épître aux Hébreux, en fonction de ce récit. Et donc on va donc chez Jésus, comme chez le Baptiste, et dans son univers culturel, le même préalable anthropologique, ce que j'ai appelé l'expérience d'une crise éthique généralisée depuis l'exil, l'expérience d'un jugement permanent, apparemment, pour le formuler d'une autre manière, l'accomplissement de la justice de Dieu n'est pas à la mesure de l'homme et dépasse ses possibilités. La porte de sortie pour Jésus est ici absolument unique, ce qui explique qu'il, sans doute théologiquement, qu'il s'est séparé du Baptiste. Sa réponse n'est pas « produisez du fruit qui témoigne de votre conversion », mais « croyez en la bonne nouvelle », donc le dépassement de l'ordre éthique, le dépassement de l'ordre éthique qui fonde l'humanité radicale et incomparable de Jésus. Jésus réarticule le royaume proche et la conversion, l'eschatologie et l'éthique, la miséricorde et la justice. Et c'est sur cette base que j'ai engagé avec vous donc une relecture de l'itinéraire de Jésus, où il faut bien distinguer les différentes étapes, les quatre étapes. La première étape, l'annonce radicalement ouverte du royaume. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le jugement lui-même est sans objet parce qu'il n'y a plus d'accusateur. Et j'ai présenté tel ou tel élément de cette prédication du royaume de Jésus avec au cœur donc cette expérience que Jésus tente de communiquer d'une miséricorde radicale qui atteint ses auditeurs à travers ses actes et ses paroles. Ça, c'est, si vous voulez, je dirais, la première situation de l'annonce, la première étape de son itinéraire, qui est le plus proche, je dirais, de son première expérience initiale. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, c'est-à-dire l'ouverture radical de la miséricorde divine. Vient ensuite une deuxième étape, la crise galiléenne, et avec des textes dans le Nouveau Testament même où ressurgit l'idée du jugement. L'idée du jugement. Il n'y a plus de recours au-delà de la miséricorde absolue de Dieu. Et Dieu respecte absolument la liberté humaine. Quel recours imaginer ? Et il y a là une sorte d'impossibilité divine qui émerge autour de la figure de Jésus. Comment vaincre la fermeture par rapport à la miséricorde absolue de Dieu ? C'est sans doute, je dirais ici, le passage le plus énigmatique, je dirais, du Nouveau Testament, difficile à comprendre à cause des textes de jugement, les invectives contre les pharisiens, etc., qui réapparaissent ici. Alors il y a le psaume 109 qui peut nous donner une sorte de clé, et qui, vous savez, ce psaume, vous le savez de la christologie, que ce psaume est tout à fait central pour comprendre l'itinéraire de Jésus. « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Donc là, on est encore, je dirais, dans le vocabulaire agonistique, si je puis dire, du combat. « De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » Et c'est au fond, je dirais, la question centrale qui émerge ici dans la deuxième étape de l'itinéraire de Jésus. Comment peut-il dominer jusqu'au cœur de l'ennemi quand la miséricorde n'est pas accueilli. Et j'ai terminé, je pense, la dernière fois avec cette magnifique formule d'Origène que je vous ai citée dans le Polycopier, donc à la page 34. On retrouve maintenant donc de nouveau le Polycopier après ce résumé. Donc tout à fait en bas de la page, cette formule d'Origène, Dieu cherche donc une voie, si je puis dire, par laquelle nous fassions volontairement ce qu'il veut. Donc une voie d'accès mystérieuse au cœur humain, pourrait-on ajouter. C'est là ici ce paradoxe finalement auquel Jésus s'affronte. Une fois que la prédication radicalement ouverte, son hospitalité radicalement ouverte, se trouve face à des résistances. On peut citer par exemple Luc 10, un célèbre texte, voyez l'envoi des 72, où on a exactement cette situation. Hein, à cette ville qui vous n'accueille pas, hein, il y aura donné un sort plus grave à Sodome et Gomorre. Voyez, c'est là où le jugement, les textes de jugement réapparaissent, hein, et que une théologie trop libérale veut simplement éliminer et gommer en disant ils ne sont pas de la bouche même de Jésus. Alors ça, je trouve ça assez grave quand on essaye d'éliminer, je dirais, des textes qui nous posent problème. Voilà, pour reprendre un peu les choses. Alors maintenant, la troisième étape. Les historiens, donc vous voyez, la troisième étape, c'est au fond l'étape du procès, l'étape de la passion. Et vous allez voir, il y a dans mon polycopier ici un va-et-vient entre, je dirais, les réflexions des historiens, ce que les historiens peuvent nous dire, et le problème de l'interprétation théologique. Donc les historiens se sont souvent demandé pourquoi Jésus est-il monté à Jérusalem après la crise galiléenne. Et donc, un certain nombre nous disent, donc il faudrait maintenant passer par un long, je dirais, développement de type historique pour comprendre, je dirais, cette solution. Apparemment, il a cherché consciemment un ultime dénouement, et cela sur un double terrain, à la fois en confrontation avec les Sadduciens, donc la caste sacerdotale. C'est le célèbre geste des chasseurs quand ils chassent les vendeurs du temple, qui se trouve à la fois dans les synoptiques. Le quatrième évangéliste met cette scène tout à fait au début de son évangile. Jésus entre donc dans le temple et renverse, hein, je dirais, toutes ces tables de marchands, etc., qu'on ne peut pas interpréter comme une négation du culte. Et vous voyez, quand je passe parle du dépassement éthique du culte, il ne s'agit pas de dépasser le culte, mais de conduire le culte vers le véritable culte, comme dit saint Jean, vers le véritable culte, qui est la circoncision du cœur. Donc, Jésus, en s'affrontant ici à une pratique dans le temple, instaure précisément ici le véritable culte. Il le conduit vers son versant éthique, si je puis dire, c'est-à-dire la relation à Dieu impensable pour les prophètes sans la relation à autrui. Ça, c'est donc la première confrontation tout à fait centrale avec le système sacerdotal de l'époque. Et la deuxième confrontation, c'est avec les pharisiens. Quand Jésus élève la prétention d'être l'interprète ultime de la volonté de Dieu, en rapport avec la tradition, bien sûr, en rapport avec la tradition. Moïse vous a dit, moi je vous dis, pas en dehors de la tradition. Mais la tradition, notamment chez Marc, ne peut pas devenir un prétexte pour se protéger contre ce noyau éthique du culte. D'où la question, en vertu de quelle autorité fais-tu cela? Alors si on passe, si vous voulez, je dirais, de ce premier constat rapide mais juste d'un point de vue historique à l'interprétation théologique, alors comment comprendre ce passage qui va se produire maintenant? La deuxième étape se terminait avec une situation de jugement, puisqu'après l'offre du règne d'une miséricorde absolue et sans condition, il n'y a plus aucun recours. Comment sortir finalement de ce paradoxe radical? Et le procès de Jésus est finalement ce jugement. Et c'est là où il y a un carrefour très important qui va se présenter à notre esprit, à notre intelligence. On va revenir, si vous voulez, je dirais, à ce que Bernard Cézbout a appelé la déconversion du discours chrétien. Vous vous rappelez de ce passage que j'ai expliqué. On pourrait dire, et on trouve cela dans la tradition, désormais, Dieu exerce son jugement contre le refus de sa miséricorde, et il exerce son jugement à travers la violence des pécheurs. Mais voyez, il exerce, la formule est terrible. C'est ça qu'il faut refuser. C'est là où il y a le court-circuit. Il exerce son jugement contre le refus de sa miséricorde à travers la violence des pécheurs. Le peuple, les Sadduciens, les pharisiens et les païens, qui sont ses agents qui exécutent sa volonté. Et quand on regarde le donné textuel, on pourrait comprendre les choses de cette manière-là. Vous avez les annonces de la Passion qui disent effectivement « Le Fils de l'homme, au passé, sera livré entre les mains des pécheurs. » Judas le livre. Les trois synoptiques. Vous voyez, parmi tous qui le livrent, il y en a un plus particulier qui le livre. Et Paul fera le passage et il dira même « Dieu a livré son propre Fils pour nous tous ». Comment comprendre ça? Dieu a livré son propre Fils pour nous tous. Et on peut évidemment ici entendre derrière ce qu'on appelle parfois la ligature d'Isaac ou le sacrifice d'Isaac. D'une certaine manière, Dieu a fait ce qu'Abraham n'avait pas besoin de faire. On pourrait lire ça de cette manière-là. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça. Qui est le sujet de ce jugement? Et quel est le jugement qui s'exerce théologiquement ici dans le procès de Jésus et, je dirais, dans sa mort historique? De toute façon, tout le Nouveau Testament interprète ce moment d'un point de vue théologique et le relie à Dieu lui-même. Donc c'est là où j'invite à se souvenir de l'analyse critique du court-circuit et de la déconversion. Il ne s'agit absolument pas d'introduire la violence en Dieu. Donc vous voyez la question qui est posée ici, qu'est-ce que c'est le jugement finalement? Et quelle est la colère? Quelle est la colère? Dans le texte de liturgie d'aujourd'hui, de demain, n'est-ce pas, on aura ça dans la parabole des invités. Les premiers invités ne viennent pas, ils disent non. Et donc le maître de la maison, qui veut avoir sa maison pleine d'invités, est en colère. Voilà. Quelle est cette colère, n'est-ce pas, de Dieu, hein? Alors, il me semble, c'est mon deuxième point ici, qu'il faut choisir ici vraiment un itinéraire d'interprétation différent. Il me semble que la pointe des récits de la Passion est ailleurs. En revenant ici, évidemment, aux gestes et aux paroles de Jésus et à l'ensemble de son itinéraire, c'est-à-dire, on est maintenant dans une troisième étape. C'est pour ça que c'est si important de lire en profondeur l'itinéraire de Jésus. Jésus a proclamé un Dieu de non-violence inconditionnelle qui laisse pleuvoir, pour citer Matthieu 7, la magnifique finale de la première partie du sermon sur la montagne, qui laisse pleuvoir et luire le soleil sur les justes et les injustes. un Dieu de l'amour de l'ennemi. Voilà la première étape, ouverture radicale, pas de jugement. Ensuite, si vous regardez au début de cette troisième partie, au moment où il y a la prise de Jésus par les gardes du temple, vous avez cet étonnant épisode de la guérison de l'oreille du serviteur au moment de son arrestation. Et vous voyez, c'est ça, si vous voulez, à mon avis, le signal d'interprétation décisif. L'épisode qui ouvre le récit de la Passion. Alors Jésus dit à l'un de ceux qui étaient avec lui, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Donc vous voyez, la non-violence radicale est ici réaffirmée. Et le procès qui suit et le jugement qui en est la conclusion sont alors un procès et un jugement tout particulier, tout particulier. Et donc c'est ça qu'il s'agit, à partir de signal, si vous voulez, d'ouverture, de bien comprendre. Alors, le refus ou l'indifférence des cœurs humains qui se présentent ici au moment du récit de la passion, le retournement des foules, etc., ne provoque pas le refus violent de Jésus ou dédoublement du péché. Vous rappelez, n'est-ce pas, ce que j'ai appelé le dédoublement du péché, c'est le refus de la miséricorde, c'est le cœur dur, le cœur de pierre, le cœur de pierre. C'est ça le véritable péché, c'est pas la transgression. On va revenir à cette notion, la transgression de tel ou tel commandement qui est finalement en jeu. Mais ultimement, c'est la dureté du cœur. Au dédoublement du péché, c'est-à-dire à la dureté du cœur, répond le dédoublement de l'amour. Jésus n'utilise pas les armes de ses ennemis, il ne les laisse pas non plus là où ils sont. Voyez ce qui serait parfois, je dirais, notre réaction, celle du mépris. Ultime réaction pour maintenir sa propre fierté face à l'adversaire, c'est-à-dire le mépris qu'on a évidemment dans certains psaumes, un discours de mépris. Il n'y a aucun mépris dans le récit de la Passion. Il se laisse entraîner par ses adversaires dans les ténèbres. Donc chez Luc 22, tout un coup, viennent les ténèbres, verset 53, à la fin de la prise de Jésus. Voilà. Et il prend la violence sur lui. Il prend la violence sur lui. Il accueille la violence. Et voyez, je mets ça ici entre guillemets, c'est ainsi qu'il domine jusqu'au cœur de l'ennemi. C'est ça la mutation. C'est ainsi qu'il domine jusqu'au cœur de l'ennemi. C'est là, au fond, si vous voulez, je dirais, la solution, c'est pas une solution, parce qu'elle est radicalement existentielle, entre guillemets, à cette énigme, finalement. Comment dominer jusqu'au cœur de l'ennemi? Par la douceur, la non-violence. Alors, j'aime bien citer à cet endroit Saint Ignace, dans les exercices de la troisième semaine, troisième étape, cette magnifique formule, considérer comment la divinité se cache, c'est-à-dire elle pourrait anéantir ses ennemis et ne le fait pas. Et ne le fait pas. Et comment elle laisse la très sainte, sacrée humanité endurer tant d'extrême cruauté. Donc, il y a une manière, je dirais, de lire ce texte, vous voyez, un texte du XVIe siècle. J'ai essayé de dire la même chose d'une autre manière, maintenant, dans cette troisième étape. Alors, je reviens aux historiens. Les historiens posent la question, comment Jésus a-t-il approché et interprété lui-même sa propre mort? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose de ça? Nous avons l'interprète de ces témoins. On est au cœur d'un conflit d'interprétation. Vous avez l'interprétation des communautés juives de l'époque, des différents groupements sacerdotaux, politiques, etc. Et vous avez l'interprétation de la communauté primitive après la résurrection. Donc on est dans un conflit d'interprétation qui dure toujours, évidemment, qui durera peut-être jusqu'à la fin des temps entre le judaïsme et le christianisme concernant cette figure de Jésus de Nazareth. Voilà. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Comment Jésus lui-même a interprété cette approche de sa mort? S'est-il identifié au serviteur souffrant? D'Isaïe 53, voyant dans sa propre mort une œuvre acceptée par Dieu. Donc je prends les formules de 53, Isaïe 53, vous connaissez tous ce texte très bien. Une œuvre acceptée par Dieu. Vous voyez, quand je dis œuvre acceptée par Dieu, on ne dit pas, n'est-ce pas, Dieu est à l'origine de la violence. Hein. Un signe de rançon. Alors, comment comprendre rançon? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, toute la tradition néo-testamentaire fait précéder la passion par la scène. Et donc, c'est là sans doute la clé d'interprétation, parce qu'on ne peut pas nier ce geste de Jésus, ce n'est pas une invention. Ce geste de Jésus, pascal, est en distance par rapport à la Pâque, et au fond, je dirais, l'interprétation de sa propre mort, de sa propre mort. Et c'est là où vous avez, évidemment, ces formules, « mon corps pour vous, mon sang, versé pour la multitude », et vous comprenez aussi, maintenant, c'est un ultime geste d'interprétation de l'alliance qui n'est pas nié. Vous voyez, l'alliance éthique, hein, l'autre, hein, comme question. Si je veux être en vérité avec un Dieu qui fait acception de personne. Voilà. Donc apparaît ici donc l'interprétation de l'alliance et l'interprétation de sa propre existence. Mon sang, mon corps, versé pour la multitude. Et ce qui est absolument remarquable, qu'on ne l'observe pas beaucoup, hein, même parmi les exégètes, que tout d'un coup il leur fait boire du sang, ce qui est l'interdit absolu dans le judaïsme. Voilà. C'est du vin. Mon sang, pour vous. Voilà. Donc vous avez là l'interprétation. Pour cette tradition, le repas de la scène est le début de la sotériologie. Le début de la sotériologie. C'est-à-dire le pour vous, vous voyez, qui était notre point de départ. Pour nous et pour notre salut. C'est le repas ultime à la suite bien d'autres repas. Et au fond, tous les repas de Jésus, notamment chez Luc, sont orientés vers cet ultime repas. C'est au fond l'hospitalité qui est d'abord radicalement ouverte, qui ensuite, parce qu'elle n'est pas accueillie, donc je reviens de nouveau à cette parabole qu'on écoutera demain dans la liturgie, c'est le hasard des choses qui m'a fait regarder ça déjà. Et voilà. Donc les invités n'ont pas répondu. Et l'hospitalité reste ouverte. Donc les pauvres, les estropiés, etc. Et il y a toujours encore place dans la salle. Donc c'est pour tous. C'est pour tous. Et donc ultimement la clé de ça, cette hospitalité ouverte, voilà, mon corps pour vous, mon sang pour vous. Et l'étape précédente, dernier petit point ici, rend donc plausible l'émergence explicite du « pour vous » au moment de la scène. Vous voyez, ça c'est le fruit essentiel de ce parcours. Il est dans la logique, ce « pour vous », de la proclamation de la miséricorde sans condition, première étape. Il est dans la logique de la crise galiléenne où se manifeste le refus de la proposition miséricordieuse faite par Jésus. Et il est dans la logique d'une décision de vie. Et vous avez là la clé. Pourquoi est-il monté à Jérusalem? Pourquoi il ne s'est pas dérobé, finalement? Quand toutes les cartes sont jouées, tout est là. Pourquoi elle ne s'est pas dérobée? Une décision de vie qui va jusqu'au bout d'une exposition de soi par rapport à autrui, sans recours à l'épée. Voilà, il me semble que c'est ça qu'on peut dire pour interpréter théologiquement, voyez, cette troisième étape. La scène est aussi le moment où le passage de l'ordre cultuel à l'ordre éthique s'achève et où émerge avec force le nouveau culte en esprit et en vérité, comme dira Saint Jean. Voilà. C'est ici que l'éthique est définitivement, comprenez bien, dépassée, c'est-à-dire conduite vers sa vérité par le don de soi. Et c'est là la manière de Jésus de dominer jusqu'au cœur de l'ennemi. C'est, pour faire bref, la voie que Dieu cherche pour que l'homme fasse volontairement ce que lui, Dieu, veut, la miséricorde. Voilà. L'ultime parole de la scène, qu'on oublie toujours, mais Saint Irénée m'a averti un jour, hein, parce que dans son dernier livre, quand on lit presque jamais, il est presque construit autour de cette magnifique formule. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et donc il y a une sorte de rendez-vous prise que Jésus prend d'une certaine manière pour lui-même, un rendez-vous pris pour lui-même et pour les siens. Je développe beaucoup ça dans mon cours de Christologie et qui ouvre le temps dans lequel nous vivons maintenant. Donc il faudrait introduire, dernière étape ici, un long développement sur la résurrection. Je ne le fais pas ici, c'est réservé à la Christologie, à la théologie trinitaire. Mais je vous redonne la citation la plus ancienne, 1 Corinthiens, évidemment, 15, la date probable 56, où on a déjà le pour nous. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés. Voilà, donc la question du salut. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc c'est l'évangile dans toute sa profondeur, sa longueur, à partir du début, chez Luc. Autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés. Donc j'espère qu'on comprend un peu mieux maintenant cette formule. Selon les Écritures. C'est décisif, voyez, c'est décisif. Pourquoi c'est décisif? Encore une fois, on ne peut pas comprendre le don de Jésus sans revenir à l'ordre culturel, son dépassement par l'alliance, par l'éthique, tel que j'ai essayé de vous le montrer. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc c'est à partir de ce « pour nos péchés » que se développe toute la sotériologie néo-testamentaire. On ne va pas revenir maintenant à la page 27-28, vous voyez la boucle est bouclée. Donc ça c'est un point absolument décisif, cette double nouveauté dans la sotériologie contemporaine d'intégrer tout le parcours prophétique et l'itinéraire de Jésus pour comprendre le donné néo-testamentaire. Alors je conclue. Quatre points. C'est-à-dire pour qu'on tire quelques leçons de ça, c'est un petit résumé, et qui est livré à la suite de notre réflexion. Alors d'abord, je dirais, le travail de Dieu en l'homme, vous rappelez à la fin de l'introduction, j'avais introduit cette terminologie, hein, joannique, le travail de Dieu en l'homme, permet à l'homme de trouver un accès à lui-même, à son propre cœur comme cœur de chair. Et on peut formuler, évidemment, comme condition de toutes les relations humaines. n'y a pas de relations humaines qui vont jusqu'au bout sans un cœur de chair. La paix, shalom, est impossible sans cela, selon la Bible. Donc ça, c'est la grande prophétie. Et j'avais utilisé cette formule à la limite maintenant. À la limite, comprenez bien ce que je vais dire. Peu importe qu'on croit en Dieu ou non, mais si je regarde cela historiquement, deux choses sont émergées en même temps et sont intimement liées. Une conscience humaine qui s'interroge sur le rapport à l'autre et qui ne cesse de s'interroger, et le vocable Dieu, mais relié à autrui. À autrui. C'est ça la révolution prophétique dans l'histoire, je dirais, de l'humanité. En établissant, je lis rapidement, un lien éthique entre Dieu et autrui, la Bible introduit en l'homme un infini qui le suscite en sa totalité, en sa totalité. Tout cœur, toute ton intelligence, toute ta force. Et elle le suscite dans sa capacité de se mettre à la place d'autrui sans quitter jamais sa propre place. Compassion, sympathie. Donc la règle d'or, c'est le paradoxe de l'échange. Le paradoxe de l'échange, qu'il ne faut surtout pas banaliser. Cette totalité émerge à travers l'interrogation infinie introduite par Dieu. Donc on peut presque traduire le vocable Dieu ici. Qui est Dieu? Il est le signe de ce travail en l'homme. Dans ses entrailles, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, uniquement. C'est en travail, dans l'être humain, dans ses entrailles. Le cœur de chair surgit parce qu'il est réquisitionné et libéré en même temps. Réquisitionné et libéré en même temps. La Bible maintient que ce travail est de l'ordre d'une impossibilité pourtant désiré par l'homme. Vous voyez, on touche ici à une limite. Et Jésus va travailler exactement sur cette limite. Sur cette limite. D'où le passage par le jugement. Vous voyez, le jugement, c'est pas quelque chose qu'il faut démythologiser, qui fait partie de notre imaginaire du passé, d'une projection. Il y a évidemment ça. Mais le cœur humain traverse quelque chose de dramatique s'il s'affronte réellement à autrui. Donc le jugement est l'expression de ça. Et donc du coup, il y a la tension indépassable de l'offre d'une miséricorde libératrice, et le jugement, pour une véritable transformation du cœur humain. Et donc l'accès au cœur de l'autre, et du coup à sa propre cœur, pour garder le vocabulaire biblique, c'est nécessairement une histoire dramatique. Une histoire dramatique. Non pas à dramatiser, mais au sens de drame le plus propre, je dirais, du terme. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. Alors, parler de l'accès, c'est aussi dire qu'il y a plusieurs accès. Et vous voyez, apparaît ici quelque chose qu'on trouve maintenant de nouveau dans le discours ecclésial, même si c'est beaucoup discuté à l'heure actuelle. La loi de la gradualité. La loi de la gradualité. Beaucoup discuté pendant le synode romain sur la famille. C'est-à-dire, oui ou non, est-ce qu'on accepte le point de départ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de départ possibles, selon les situations. Et c'est ça qu'on lit dans l'itinéraire de Jésus. Il y a évidemment l'expérience du jugement et de la miséricorde, donc l'étape de la plus grande ouverture radicale au point de départ. Il y a l'expérience dramatique d'un impossible accueil de la miséricorde. L'indifférence, le refus existent, Jésus l'a affronté. Et il y a l'expérience du renoncement à la violence par la non-violence et le redoublement de la miséricorde qui émerge dans le procès et la mort de Jésus. Donc, je fais ici un petit rappel pastoral déjà. C'était comme une sorte d'invitation d'utiliser, entre guillemets, l'itinéraire même de Jésus pour discerner la pluralité des situations dans lesquelles on est. Donc, il n'y a pas une loi simplement que Jésus fait avancer. Alors, ça veut dire que la thématique néo-testamentaire de Jean, de Paul d'abord, de Pierre, de l'épître aux Hébreux, qui ne connaissent pas réellement l'itinéraire de Jésus, qu'on retrouve évidemment chez les synoptiques et Jean, est sans cesse à relier pour lire la totalité du Nouveau Testament. Alors, avant-dernière petite remarque de conclusion, le conflit confessionnel que j'avais évoqué au début est déjà dans l'introduction du cours. Je pense que c'est une hypothèse que je propose et que je vais poursuivre dans la suite. Le conflit confessionnel surgit à cause d'une confusion entre les différentes étapes de ce récit, c'est-à-dire comme si on raplatissait le récit, vous voyez, et il n'y a plus qu'une seule étape, finalement. Ou en raison d'oubli qu'il y a donc, je viens de le dire, qu'il y a des étapes, en se situant simplement immédiatement au niveau des sotériologies néo-testamentaires. Je pense qu'il faut résister aujourd'hui à faire uniquement de l'épître aux Romains le seul texte, vous voyez, à partir duquel on juge, je dirais, de tout. Il faut réouvrir très radicalement le donné biblique. Sinon, on rentre dans la déconversion. Alors, voyez, dans les quatre points, je ne vais pas y revenir maintenant en détail, vous pouvez regarder ça. J'explicite un tout petit peu comment cette déconversion a pu fonctionner dans l'histoire des confessions. Notamment le point 4, le risque de dramatiser le caractère désespéré du péché humain, de son dédoublement dans le refus de la miséricorde, nécessitant alors que Dieu prenne la place de l'homme. Vous voyez, quand la situation humaine est totalement désespérée, il ne reste plus que l'approche de la substitution. Que Dieu se substitue finalement à l'homme. Donc vous rappelez, j'avais explicité ça, le modèle de substitution qu'on trouve peut-être parfois chez Paul. Il faut regarder de près. Voilà. Alors le récit de l'humanité de Jésus nous donne des critères de discernement. Et le critère principal est anthropologique. Il faut situer la question du salut. Donc, je retraduis maintenant la question du salut. Qu'est-ce que c'est le salut? L'émergence du cœur circoncis de chair. Voilà le salut. Il faut situer cette émergence dans la relation entre Jésus et ses contemporains, et ensuite entre Jésus et tout homme. Ça, c'est le critère principal de discernement. Et ensuite, deuxième critère, le drame du salut au sein de la communication humaine. Donc c'est une relation dramatique. Comment Dieu peut-il arriver à ce que l'homme fasse librement ce qu'il veut et devienne ce qu'il veut? Comment peut-il faire que l'homme fasse librement ce que Dieu veut et qu'il devienne par lui-même ce que Dieu veut qu'il soit. Voyez, là, je rajoute un aspect. Hein. Par lui-même. Et ça nous conduit vers la suite du cours. On va centrer maintenant notre recherche sur le rapport entre le règne de Dieu, le royaume de Dieu, donc le travail de Dieu en l'homme, Donc c'est pas Dieu en lui-même, mais le règne de Dieu. Comment Dieu règne-t-il sur le cœur humain et sur les liens entre les êtres humains? Et la question de la liberté. La suite des chapitres sera consacrée à cette question et qui me conduira à expliciter la troisième nouveauté de l'anthropologie théologique contemporaine, c'est-à-dire l'historicité de la liberté humaine et son information culturelle. Donc elle va continuellement intervenir de l'extérieur d'une certaine manière et frapper à la porte du donné biblique pour pouvoir y entrer, si je puis dire. Et inversement, le donné biblique va nous aider à interpréter la liberté humaine. Mais pourquoi il y a histoire de l'anthropologie? Je rappelle cette thèse que j'ai développée dès le point de départ du cours. Pourquoi il y a une histoire de l'anthropologie chrétienne? Parce qu'évidemment, la liberté à l'époque de Jésus, au IVe siècle, au XVIe siècle, et aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose. Donc ça veut dire que ce travail reste continuellement à refaire. Et ça, c'est le troisième élément de l'anthropologie contemporaine. Alors vous corrigez un tout petit peu ici dans le polycopier, qu'en faire plus haut, c'est la page 28 suivant, où vous trouverez la référence. Avant de faire la pause, donc je vais un peu introduire la suite. Donc maintenant, on va traverser l'histoire. Mais évidemment, je dirais, c'est une relecture à partir de notre propre actualité aujourd'hui. Donc le rapport entre l'accueil du royaume d'un côté et le cœur humain, la conscience et la liberté humaine. Et le débat émerge pour la première fois d'une manière explicite et de manière conflictuelle et confessionnelle à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle à travers ces deux figures, Pélage et Augustin. Donc c'est de ces deux figures que nous allons parler maintenant. Les deux ont d'ailleurs donné lieu à des ismes, augustinisme et pélagianisme. Donc, ça c'est un indicateur qu'il y a un problème de fond qui est traité ici et qui est d'une certaine manière matriciel encore pour nous aujourd'hui. Et ça va aboutir d'ailleurs, si vous regardez à la page 45, avant le débat critique, à deux prises de position très importantes de concile, le concile de Carthage, 418, et le deuxième concile d'Orange, 529, qui vont donc traiter d'une manière un peu normative de ce problème de la liberté et de la grâce. De la liberté et de la grâce. Entendons bien derrière grâce, gratuité absolue. Alors, j'ai donné comme sous-titre « Le salut comme éducation divine » ou « Comme grâce infaillible ». Alors, le terme « éducation divine », c'est un terme biblique, on le trouve dans les livres de la sagesse, mais antérieurement dans le Deutéronome, déjà Dieu comme éducateur, on le retrouve dans l'Épître aux Hébreux, un peu chez Paul aussi, et il va traverser, je dirais, l'histoire de l'anthropologie chrétienne jusqu'à nos jours. Et c'est évidemment au IVe, Ve siècle que ce terme va prendre une certaine figure, à la fois pour Pélage et pour Augustin. C'est pour ça que j'ai donné ça comme sous-titre. Quand on entend éducation, voyez, on entend émancipation aussi. L'éducation dure un certain temps. Quand on dit grâce, on dit quelque chose qui est absolument gratuit, qui ne relève pas d'abord de l'activité humaine. Donc, vous voyez, il y a une certaine tension ici sur laquelle on va réfléchir. Alors, vous avez quelques dates. Donc, petite récapitulation, Saint-Augustin, vous avez des dates. Et il y a une période, je vais en parler tout de suite, manichéenne, et qui débute après une crise morale très importante que Augustin raconte lui-même, à 16 ans, donc 369, par là. Et il y a, elle se termine par une véritable conversion philosophique. Donc, vous voyez, c'est une conversion en étapes, pourrait-on dire, chez Augustin. La gradualité, on la retrouve ici. Et progressivement, il va abandonner le manichéisme. Il sera professeur à Milan et va rencontrer Ambroise, la rencontre décisive. En août 86, la conversion. À Pâques, ensuite le baptême. Et là, vous allez corriger, 391, l'ordination presbytérale. Et ensuite, vous avez deux étapes dans sa vie d'évêque. Donc, en Afrique du Nord, Hippone, la controverse avec le donatisme sur le baptême. Et ensuite, la deuxième étape, dominée par la controverse pélagienne. C'est ça le point essentiel qui va nous intéresser. Alors, la figure de Pélage, hein, donc il ne vient pas de l'Afrique du Nord, c'est pas un berbère, mais il est né en Grande-Bretagne. Il vient en 380 à Rome, où il est baptisé, ce qu'il appelle aussi sa conversion à la vie parfaite. C'est un laïc, avec une vie évangélique très exigeante. Il est très influent à Rome, où, dans la ligne de l'épître de Jacques, Luther appellera cet épître l'épître de paille. Il va lutter contre une foi sans les œuvres. Mais il y a une sorte d'intransigeance qui va rapidement susciter des soupçons. Après l'invasion de Rome par Alaric, Pélage va se retirer en Afrique. Vous voyez, les deux hommes vont se retrouver sur un même terrain. Et c'est à ce moment-là que commence le conflit. Et dans plusieurs étapes, il y a une condamnation romaine par le pape Zosime. Et c'est donc le 16e concile de Carthage, que j'ai déjà nommé, qui va dérimer le débat. Voilà, si vous voulez, je dirais l'arrière-plan. Alors, je vais passer un certain temps avec vous de regarder quelque chose que vous avez sans doute déjà travaillé, je l'espère au moins, la conversion d'Augustin. On va y regarder un peu de près, parce que sans cette conversion, au fond, tout le débat de type anthropologique est incompréhensible, à mon avis. C'est vraiment, je dirais, la matrice. Et c'est extrêmement intéressant parce que, voyez, vous avez déjà ici, chez Augustin, ce que j'ai appelé dans l'introduction un modèle généalogique. Il fait, au fond, je dirais, une généalogie de sa propre existence quand il écrit les confessions à partir d'une notion centrale dans le monde, je dirais, dans le modèle généalogique, qui est celle de la conversion. La conversion. Mais alors, quelle conversion? Donc, il y a des étapes. Voilà l'intérêt, si vous voulez, de ce texte. Alors, il y a, au fond, deux grandes étapes. Il y a le passage du manichéisme à une existence philosophique, une conversion philosophique, et ensuite vient la deuxième conversion, c'est-à-dire celle au christianisme. Et la première n'est pas abandonnée, elle est tout à fait décisive, c'est pour ça que j'y retourne. On ne comprend rien à la théorie du péché originel, si on n'a pas bien vu l'itinéraire d'Augustin lui-même. Alors, le succès du manichéisme comme solution, voyez, d'une crise morale, donc une grande crise morale chez Augustin, et il s'en sort par, on pourrait dire ça par une secte, Oui, une grande secte, évidemment, de l'époque, le manichéisme, qui existe dans toute la Méditerranée. Pourquoi il est si fascinant? Parce qu'il introduit une question nouvelle qu'on n'a jamais posée comme ça, et il la solutionne. Quelle est la question unde malum? D'où vient le mal? D'où vient le mal? Et il apporte une solution mi-mythique, mi-rationnelle. C'est ça qui est intéressant. C'est pas uniquement un mythe, mais il y a une intelligence dans ce mythe. Et donc c'est hautement sécurisant, cette solution. Et au fond, en quoi consiste cette explicitation? Au fond, je dirais, l'être humain est le terrain de jeu, si je peux m'exprimer ainsi. On se trouve ça aujourd'hui, évidemment, dans beaucoup de récits de fiction que les jeunes aiment beaucoup, pas uniquement les jeunes. Il est le terrain de jeu de deux forces qui s'affrontent, le bien et le mal. La lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Et donc il y a un combat gigantesque entre ces deux forces en vue d'une délivrance de toutes les parcelles de lumière et de bien tenues captives dans les ténèbres de la matière. Donc c'est une sorte de matérialisme spiritualiste ou spiritualisme matérialiste, vous voyez. C'est une vision tragique de l'itinéraire humain et du monde, parce qu'il est, encore une fois, il n'est pas libre, il est le terrain de jeu de quelque chose qui le dépasse radicalement, et c'est une vision qu'on appelle aussi agonistique, c'est-à-dire, c'est le combat, hein. Au commencement, je dirais, de l'univers, il n'y a pas la douceur, comme dans le premier récit de la création, mais le combat, la violence entre le bien et le mal. Et donc, c'est la lecture de Cicéron à 19 ans, en 372, qui va aider Augustin. Vous voyez, on a ça dans nos propres existences. On a à 16 ans, 17 ans, on a lu quelque chose dont on ne perçoit pas l'importance. Et alors après, on traverse je ne sais pas quoi, et tout d'un coup, ça revient. Et c'est ça, au fond, si vous voulez, la sortie hein, de la crise morale et la crise du manichéisme. Donc, c'est la première conversion au néoplatonisme, et je vous cite juste les textes ici, les confessions. « J'ai commencé à brûler d'amour pour la sagesse, déterminé à abandonner dès que j'aurai trouvé celle-ci toutes les frivoles espérances et folies mensongères des vaines passions. » À la lecture d'Hortensius, donc ce magnifique texte de Cicéron, mes 19 ans s'étaient enflammés d'amour pour la sagesse. Alors évidemment, il dit ça des années après. C'est la mémoire qui travaille ici. Mais c'était quand même l'événement décisif. Cette lecture est comme une sorte de germe dans sa propre vie, germe culturel et spirituel, déposé en Augustin, avant la traversée du manichéisme, et on verra après la pause comment ça le fait sortir du manichéisme, et en quoi, d'une certaine manière, nous avons ici aussi une matrice culturelle pour tout. Donc comment Augustin est-il sorti du manichéisme? Quelle mutation s'est produite à ce moment-là? Donc c'est à la fois le retour vers cette lecture qu'il avait fait à 19 ans, Cicéron, et en même temps c'est une avancée, c'est-à-dire c'est la rencontre du néoplatonisme, dont il est l'adepte dans son enseignement à Milan, avant la rencontre d'Ambroise. Alors cette mutation se joue sur plusieurs points. Donc d'abord la question évidemment du mal qui revient ici. Si le mal est une substance ou une puissance qui s'oppose au bien ou un principe, le bien devient totalement irrationnel, c'est-à-dire il ne relève plus de la liberté humaine. l'homme perd toute liberté et devient donc un champ de bataille ou un terrain de jeu d'un combat entre ces deux puissances et donc qui se décide en dehors de sa propre sphère, de sa propre liberté. Donc ça, c'était le manichéisme. Et c'est ici qu'intervient, je dirais, comme ce qui fait muter cette vision manichéenne du monde, intervient la création, l'idée de création. D'une création intégrale et sans reste, tout est créé, qui permet à Augustin de sortir du mythe manichéen. Alors, avec une double conséquence, donc intervient ici le célèbre texte du chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées, hein, la creatio ex nihilo, de rien. C'est donc la notion de rien qui va changer ici. Puisque tout vient de Dieu, le néant n'est plus une puissance, mais un moins bien. Voilà la décision. Le mal, le néant, n'est plus une puissance, mais un moins bien. Ça ne nous convainc peut-être pas, mais ça c'est une autre question. Hein. C'est une autre question. Pour le moment, on essaie de comprendre comment il s'en est sorti du manichéisme. Donc, le mal n'est pas une puissance, c'est un néant. C'est un néant. Donc, à l'intérieur de la création, il y a du mal. Et d'une manière un peu dégradée, du moins bien. Voilà. Ça peut aller loin. Alors, nous éprouvons, évidemment, je dirais, le mal comme une puissance. Mais c'est illusoire. C'est une puissance illusoire. Une puissance d'attirance illusoire, une apparence qui, s'il y a en face de la résistance, pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, voilà, ça tombe. C'est ça l'idée, hein, comme un château de cartes. Donc ça, c'est la première conséquence. Puisque tout vient de Dieu, le néant n'est plus une puissance, mais un moins bien. Et ça suppose, deuxième conséquence, l'idée d'une distance entre le créateur et la créature. Une distance ontique. Donc, il y a du moins bien dans les créatures. Les créatures sont déficientes en comparaison par rapport au bien absolu qu'est Dieu. Les créatures sont donc nécessairement déficientes, ce qui veut dire, positivement, qu'elles doivent choisir, qu'elles sont nécessairement devant un choix, soit de décliner loin de Dieu, vers ce qui a moins d'être, ce qui est moins bien, donc d'être attiré par le bas, par le mal, soit d'incliner vers leur origine. Vers Dieu, vers l'être, l'incorruptible, l'invisible. Voilà, si vous voulez, c'est ça la mutation philosophique qui se produit ici. Donc c'est, au fond, une vision néoplatonicienne, pour faire bref, il faudrait entrer dans beaucoup de détails ici, qui se met à la place de la vision manichéenne, je dirais, du monde. Et du coup, l'homme n'est plus un champ de bataille entre le bien et le mal, bataille qui se réalise en lui, sans qu'il y participe, il est au contraire appelé à un travail, à une assaise, à un exercice. Le travail d'incliner ou de décliner, de s'attacher à l'incorruptible et de se détacher du monde, ou de s'attacher au monde sensible, en se détachant de son origine. Vous voyez, ça c'est au fond ce qui est livré à la liberté humaine. L'attachement à l'être est à la fois ardemment désiré et en même temps éprouvé comme difficile, voire comme impossible. Donc ça, c'est l'expérience de sortie du manichéisme qui n'est pas sans poser de problème en le pressant déjà, parce que Augustin passionné, évidemment, est aussi conscient qu'il entre donc dans un choix de liberté difficile à pousser jusqu'au bout. Difficile à pousser jusqu'au bout. Il a communiqué, au fond, ce schème directeur de sa conversion à l'ensemble de l'Occident. Je vous renvoie, c'est pas à la page 17, au chapitre 3, à la page 21, sur la corporéité. J'avais déjà fait un peu allusion à ce schéma occidental, si je puis dire, qui arrive ici à expression dans la première conversion d'Augustin. Donc la page 21, sur la corporéité. Alors, on va en venir maintenant à la seconde conversion, qui est la conversion au Christ. Et c'est là où, je dirais, se pose un certain nombre de problèmes d'interprétation. On peut dire, de toute façon, qu'elle s'inscrit dans la première. Alors, voyez, je propose ici plusieurs possibilités. La colorance, si je puis dire. Alors ça serait une manière de ne pas trop la prendre au sérieux. C'est au fond une manière de la deuxième conversion au Christ. C'est une manière de vivre son néoplatonisme. La colorant, la concrétisant, mais peut-être aussi la transformant. Donc vous voyez la conversion au Christ qui transforme finalement ce schème fondamental néoplatonicien. Donc le débat porte là-dessus. Alors Augustin, c'est ça qui est intéressant, opère lui-même ce discernement. Vous trouvez ça dans les Confessions, 7e livre, les numéros 13 et 14, vous pouvez regarder de près là. Et alors, donc je cite un peu les deux points essentiels. Il fait le discernement entre ce qu'il a trouvé dans les livres des philosophes néoplatoniciens et ce qu'il a trouvé dans la Bible. Et ça, c'est intéressant de voir ça. C'est là où il interprète lui-même ce qui lui est advenu, c'est-à-dire dans la deuxième conversion. Ce qu'il a trouvé dans les livres platoniciens et qui ressemble fort à ce qu'il lisait aussi dans les Écritures. Donc d'abord, expérience de ressemblance. Non en propre terme, mais en un sens tout semblable, appuyé de raisons de toutes sortes qu'au commencement, était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Donc il a trouvé dans les deux, chez les philosophes et dans les Écritures, cette même affirmation, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Donc vous voyez l'idée de création que j'ai déjà évoquée. L'âme humaine rend témoignage à la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Donc il y a une sorte d'assimilation ici, entre la philosophie néoplatonicienne, ce schème fondamental que je viens d'exposer, et ce qu'Augustin a trouvé aussi dans les Écritures. Mais maintenant la différence, quant à ceci, il ne l'a point lu dans ces livres-là. Il parle en troisième personne. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ah, c'est là où apparaît la spécificité chrétienne. La réception du Christ et le devenir enfant de Dieu. Ça, c'est la conversion au Christ. Autrement dit, la conversion philosophique a permis à Augustin de découvrir le but de son chemin, comme il dit lui-même, le but de son chemin. Donc à travers une mutation, voyez, non pas décliner, mais s'incliner progressivement, s'attacher à l'incorruptible, à l'invisible, le but. La seconde conversion lui découvre le chemin. Peut-être, j'ajoute ça ici, je ne vais pas discuter ce point, sans transformant fondamentalement le but. Ce qu'il ne pouvait trouver que dans les Écritures chrétiennes, c'est ce qui se trouve, autrement dit, à la jointure du visible et de l'invisible, à la jointure de l'âme et de la corporéité, à la jointure du corruptible et de l'incorruptible. Vous voyez tout ce langage qu'il faut enfiler ici. Et qui tient à la fois du logos de Dieu et de l'élément humain, corps, âme, vie. Ce lien, cette jointure est inimaginable par l'homme. Vous voyez, c'est là où intervient une idée tout à fait fondamentale chez Augustin, mais qu'on a déjà bien sûr avant, n'est-ce pas? L'homme est au même titre mystère que Dieu. Ce qui est mystérieux dans l'être humain, c'est cette unité qu'il représente. Vous voyez, on a déjà derrière nous Éphèse, c'est-à-dire l'affirmation, le concile d'Éphèse, de l'union hypostatique au sein du Christ. Et du côté de l'être humain, c'est cette union, c'est cette jointure entre Dieu et l'homme, l'incarnation, qui est radicalement mystérieuse. Dieu va prendre l'initiative et emprunter le chemin de l'homme pour la faire connaître à celui-ci. Donc, vous voyez, c'est la via, le chemin, qui est la spécificité chrétienne ici. Ce que Augustin trouve donc, je résume, dans les Écritures, alors surtout, il faut tout de suite l'ajouter, chez Jean et Paul, beaucoup moins dans l'itinéraire de Jésus chez les synoptiques, c'est quoi? C'est le lien entre la philosophie et l'Écriture. C'est le lien entre la philosophie et la grâce. C'est le lien entre le but de la conversion et l'itinéraire. Et l'itinéraire, la voie. Et évidemment, je dirais, ces liens ou ce lien s'abordent plus aisément dans les grands textes de Paul, de Jean, de la lettre de Pierre. L'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire dans ces textes que j'ai cités tout à fait au début du premier chapitre et qui abordent le tout, je dirais, du réel, qui font intervenir directement le logos, la sagesse, et qui proposent finalement une christologie d'en haut. Voilà, si vous voulez, je dirais un peu le présupposé de la conversion au christianisme. Mais vous sentez déjà qu'on ne peut pas abandonner les étapes précédentes, qui évidemment sont à la fois dépassées et restent d'une manière ou d'une autre présentes, notamment la conversion du manichéisme à une existence philosophique. Alors, le récit même de la conversion, je vous ai donné entièrement le texte. Donc, à la page 156, suivant. Donc, je vous invite de lire ces pages jusqu'à la page 160, de les reméditer. Donc, je ne vais pas les commenter maintenant en détail, mais je vais vous donner plutôt une indication de lecture. J'imagine que vous avez déjà lu ça, mais essayez de quand même de le relire un peu en détail, plus mal à main. Je vais vous mettre le doigt sur certains détails très importants d'un point de vue anthropologique. Alors, voyez, vous avez 5 étapes que j'indique dans le récit. Donc, ça commence avec ce que Augustin lui-même appelle le conflit des deux volontés. Le conflit des deux volontés, donc c'est le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. « Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je fais, je le hais. » Vous voyez, cette sorte de découverte fondamentale à laquelle nous allons revenir, de la fragilité radicale de l'être humain. Le conflit des deux volontés. Et nous avons ici dans ce texte, sans doute pour la toute première fois, une remarquable analyse psychologique, non pas, si vous voulez, je dirais, comme dans le manichéisme, de la lutte entre deux géants, du bien et du mal, mythique et rationnel, mais la lutte qui se déroule à l'intérieur de l'être humain, dans la conscience de l'être humain, le lieu où se vit l'attachement et le détachement. Et donc est proposée ici une analyse psychologique dans la matrice des Écritures, et le texte essentiel, vous le trouvez dans le numéro 11, je vous donne la référence, c'est Galates 5, 17. De cette façon, je vous lis cela, je comprenais par mon expérience intime ce que j'avais lu. Vous voyez toujours ce retour, cette fois-ci aux Écritures et non pas aux philosophes. Comment la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Donc les deux volontés. C'était moi sans doute, dans l'une et dans l'autre, mais plutôt moi dans ce que j'approuvais en moi que dans ce que je désapprouvais en moi. De fait, ici plutôt, ce n'était plus moi, puisque pour une grande part, je supportais cela malgré moi, plus que je n'agissais le voulant. Vous voyez ce qu'on appelle une addiction, hein? C'est magnifiquement décrit ici. Cependant, l'habitude, voilà le terme, l'habitude était devenue plus obstinée contre moi. Et cela venait de moi, puisque j'en étais arrivé, le voulant, là où je n'aurais pas voulu. Oh, quelle formule! Quelle formule! J'arrivais là, j'en étais arrivé, le voulant, là où je n'aurais pas voulu. Et de quel droit protester quand une juste peine atteigne le pécheur? Soulignez deux fois cette phrase terrible. Vous avez ici pour la première fois cette équivalence entre pena et pena. Voilà. Voilà. Peine et pena. Vous voyez, la juste peine. C'est-à-dire, voilà. Le retour du bâton, si je puis dire. Le retour du bâton. Voilà, si vous voulez, je dirais la première étape. Ensuite, alors, vient, c'est remarquable, à partir du numéro 11, à partir du numéro 19, pardonnez-moi, non, le numéro 13, le récit de Ponticianus. Donc, on appelle ça l'exemplum. Là, on est déjà dans la paideia grecque, on va y revenir un peu plus explicitement. La pédagogie se fait comment? Par l'exemple. Donc, le texte du philosophe, des philosophes, le texte des Écritures, le récit d'un autre ici, Ponticianus, et c'est une sorte de mise en abîme, lisez ça, c'est absolument magnifique, Ponticianus raconte sa propre conversion en revenant encore à une conversion d'un autre, celle d'Antoine, qui était le best-seller de l'époque, le récit de la vie d'Antoine par saint Athanase. J'espère aussi que vous l'avez lu. J'espère. Voilà. Sinon, vous le lirez. Donc, c'est le best-seller de l'époque. Et donc, vous voyez, c'est par ce texte hein, que se produit de l'extérieur cette conversion et qui s'exprime immédiatement corporellement. C'est très corporel au numéro 19. Vous lisez ça. Alors, au milieu de ce grand combat qui se livrait dans ma maison intérieure, et que j'avais violemment engagé dans mon âme, dans notre chambre intime. Vous voyez, le vocabulaire spatial est très bel, je dirais ici. Dans mon cœur, le visage, le vocabulaire biblique, le problème du cœur de chair, du cœur circoncis, voilà la question du salut. Le visage aussi troublé que l'esprit, je me jette sur Alypius, je crie. Quoi? Nous supportons cela? Quoi? Que tu as entendu, des ignorants se dressent. Ils enlèvent le ciel et nous, avec notre science, son cœur, voilà où nous roulons. Terrible. Nous, avec notre science, son cœur. Alors ça, c'est la deuxième étape. Ensuite vient, si vous voulez, la crise finale. Et ce qui est remarquable, donc, à partir des numéros 19 que je viens de lire, là, on entre dans la crise finale qui récapitule d'abord toutes les étapes antérieures, comme si, au moment décisif, il était invité à faire mémoire, une sorte de relecture, comme on dit aujourd'hui. Il remonte à l'Hortensius, numéro 17, revient les deux volontés, la crise du manichéisme, numéro 22. Il faut repérer ici la place qu'il donne à l'habitude. Voyez, la vie qui roule d'elle-même, n'est-ce pas, ce qui est l'habitude dans notre existence, où l'esprit ne commande pas l'esprit, et le corps et l'habitude en tirent profit, et rendent à leur tour la volonté impuissante. Impuissante. Donc ça, c'est la crise finale. Et ensuite vient le dénouement. Alors on peut se demander, comment dans une telle crise le dénouement peut-il advenir? Parce qu'aucune raison pourra avoir raison de la volonté humaine, ou ce que Augustin appelle carrément la maladie de l'âme. Donc, vous voyez, on est ici sur le plan d'un récit de guérison, la maladie de l'âme. Comment en sortir? Seuls y parviennent, magnifique formule, quelques nouvelles amies au féminin qui remplacent les vieilles amies. Je vous laisse lire ce passage. Donc c'est l'amitié qui intervient ici, tout à fait décisive. Et donc, si vous voulez, j'ai dit, c'est deux discours, n'est-ce pas? C'est le discours de frivolité et le discours de chasteté, mais incarné, j'ai dit, dans des personnes qu'il a devant les yeux et qui, tout d'un coup, prennent l'importance dans son imaginaire intérieur, dans sa maison intérieure. C'est ça qui se passe. Et alors, on arrive au dénouement, dernière étape, à partir du numéro 28, avec les trois éléments, les larmes. Solitude, il se retire tout seul dans le jardin, la tentative de prier. Et là, une voix chantante, comme celle d'un garçon ou d'une fille, je ne sais, prends, lis. Donc, Augustin réouvre ici les Écritures en ce moment critique. Et qu'est-ce qu'il retrouve? Il trouve Romains 13, verset 13, non pas de ripaille et de soûlerie, non pas de coucherie et d'impudicité, non pas de dispute et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Je ne voulais pas lire plus, ce n'était pas nécessaire. C'est magnifique. Vous voyez? Donc quelque chose, un événement s'est produit ici. Évidemment, on est dans une magnifique recomposition littéraire. Mais un événement s'est produit, voilà ce qu'on peut dire. Alors moi, je me demande toujours, vous voyez ça un peu plus loin, et si Augustin était tombé sur un autre texte? Donc je reviendrai un peu à ça plus tard. Voilà. Parce qu'évidemment, le texte que vous venez de lire, il est très, très marqué. Hein. Il s'inscrit parfaitement dans son itinéraire aussi. Il aurait pu tomber sur un autre texte. Ceux qui font des retraites savent un peu ce que c'est. Hein. Voilà. Alors, vous avez donc ici une pédagogie spirituelle d'une très grande postérité. D'une très grande postérité. Donc, on peut les nommer. Donc, au point de départ, il y a un conflit anthropologique. Donc, cher esprit, interprété à la fois dans une perspective philosophique d'abord et théologique. Donc les deux à la fois. N'oublions pas la première conversion. Ensuite, cette crise qui est déjà présente au sein même du néoplatonisme, l'expérience de la liberté, est attisée d'abord et non pas guérie par l'exemplum d'un autre récit de conversion. Donc, le récit de saint Antoine, qui se donne à imiter et non pas à raisonner. Imitez-moi, dit saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, comme moi je suis l'imitateur du Christ. Donc, la mimesis, je vais y revenir comme principe anthropologique, la mimesis, l'imitation. Donc, vous voyez, ça c'est très très important, ces figures, à la fois imaginaires et réelles, dans la vie, j'ai dit, de cet homme. Et ça devient paradigmatique dans la suite. Ensuite, troisièmement, le lieu du conflit surgit, et c'est la corporéité. C'est là où se résout le problème. Vous voyez, c'est pas le mental, c'est la corporéité. d'où vient la mutation. Donc là, il y a toute la tradition des récits de guérison qui est derrière. Les vieilles, les anciennes amies, les nouvelles amies. Et finalement, le texte biblique intervient, non pas abstraitement, mais par l'intermédiaire d'une voix corporelle, permettant le dénouement, Alors, pour terminer, pourquoi je fais tout ça avec vous, parce que vous l'avez déjà lu, peut-être analysé, hein, la crise pélagienne éclatera 26 ans après la conversion d'Augustin. Et c'est elle qui révélera tout ce qui est impliqué déjà dans la conversion. C'est pour ça qu'il faut relier les deux choses. L'interprétation du mal d'abord. Le mal a perdu évidemment tout son sens ontologique. La question manichéenne, d'où vient le mal, devient une nouvelle question. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en passant. Déjà dans le néoplatonisme un peu, mais surtout dans la conversion chrétienne. D'où vient que nous fassions le mal? Vous voyez, ce n'est pas la même question. D'où vient que nous fassions le mal? Donc le psychologique naît à ce moment-là, l'anthropologique naît à ce moment-là. On n'est plus dans la fiction mythique. Dieu étant le principe bon, le mal bascule dans la sphère de l'acte et de la volonté libre de l'homme qui peut pécher ou non. Voilà, c'est ça qui se passe. Vous voyez, c'est le problème de la crise galiléenne à un moment donné. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand la bonté radicale se pose devant vous, sans jugement, sans violence? Comment réagit le cœur humain? Donc, il n'y a plus de jugement. J'ai oublié de citer tout à l'heure le texte de Jean 3, vous voyez, à la fin du discours avec Nicodème. Vous avez ça, n'est-ce pas? Hein? C'est l'homme qui se juge. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui juge. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient que nous fassions le mal? Et voyez, de là résulte, et c'est toute l'ambiguïté avec laquelle nous luttons encore aujourd'hui, qui est derrière la déconversion, une correspondance entre le mal péché comme mal faire, peccatum, et la peine subie en retour, la pena, qui porte désormais le poids d'explication de toute souffrance. Et voyez, vous êtes subitement dans une vision pénale de l'histoire. Vous êtes sorti du manichéisme, mais vous êtes quand même, je dirais, dans une vision pénale de l'histoire. D'où vient que nous fassions le mal? Et si nous faisions le mal, qu'est-ce que ça produit finalement? Donc la question du mal devient finalement la question uniquement du mal faire, du péché. Le mal-malheur n'existe plus ici. Le mal-malheur, voyez. Ben, on observe de très près, dans le texte, ce basculement, voyez. C'est le prix qu'Augustin a payé pour sortir du manichéisme, si je puis dire. Alors, pour justifier, vous voyez déjà, j'anticipe beaucoup la deuxième partie du cours, pour justifier cette équivalence, donc, entre peccatum pena, pour justifier cette violence et rendre crédible l'idée que toute souffrance, aussi injustement répartie et aussi excessive qu'elle soit, est une rétribution du péché. Voyez où on en est là. Il faut donner à celui-ci une dimension supra-individuelle générique. Et voyez, émerge le péché originel. Émerge ici le péché originel. J'espère que vous avez compris ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait faire tout l'itinéraire du manichéisme par la philosophie jusqu'à la conversion scripturaire, et on ne comprend rien à la crise pélagienne et à la thèse du péché originel si on n'a pas fait cet itinéraire. Il faut donner à celui-ci, au péché, une dimension supra-individuelle générique, c'est le péché d'Adam, le péché originel. Et c'est devant cet arrière-plan qu'Augustin mettra en valeur le caractère absolument gratuit de la grâce et le caractère restreint du choix de Dieu et de son salut qui passe nécessairement par l'arrivée de nouvelles amies. Quelles sont finalement les nouvelles amies? L'Écriture et l'Église. L'Écriture, l'Église. Voilà, donc, je dirais un peu l'ensemble de c'est du très grand enjeu qui s'est passé ici. Alors maintenant, la païdéia grecque, donc l'arrière-plan philosophique, pour les deux, pour Pélage et pour Augustin, ensuite Pélage et Augustin, et on va tirer les conclusions, évidemment, dans la partie C. Alors, la païdéia grecque et sa reprise dans la sotériologie chrétienne. Qu'est-ce que la païdéia? Je vous ai donné une petite référence ici, facile, accessible et à lire. Donc, elle est sous-jacente à l'itinéraire d'Augustin. Donc, païdéia veut dire éducation. Hein? Païdéia veut dire éducation. Moi, j'aime beaucoup le terme éducation et doucha, faire sortir. Faire sortir. Et pour l'être humain, c'est pas uniquement la sortie du petit bonhomme, du petit homme du sein maternel. Mais la sortie n'est pas terminée avec cet événement magnifique. Ensuite vient l'éducation, voilà. La sortie, ça veut dire l'entrée dans la culture, etc. Donc la païdéia est la préoccupation majeure de la culture grecque, et notamment encore au 4e et 5e siècle avec l'hellénisme de cette époque. Derrière, il y a l'Odyssée, l'Iliade d'Homère, aussi les tragédies qui sont le bien culturel du monde grec, et qui font comprendre quelque chose qui revient avec force aujourd'hui, la démesure de l'humain. La démesure de l'humain, les passions de l'être humain, la démesure. D'où l'idéal culture par excellence de la Grèce, et qui devient l'idéal culturel du monde hellénistique, je dirais, dans différents types philosophiques, jusqu'au 5e siècle inclus, c'est la mesure. La mesure comme chemin vers l'oïdonomia, c'est-à-dire le bien-être, le bonheur. La mesure. La païdéia est donc l'éducation comme chemin de salut qui conduit par la mesure acquise vers le bonheur. Voilà, si vous voulez, je dirais en très 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 bref, cette matrice culturelle que les enfants, les jeunes, etc. ont bu, je dirais quasiment avec le lait maternel. L'éducation, c'est ça. Par l'exemplum, ce que j'ai dit, si vous voulez, dans la suite, c'est-à-dire par l'exemplum, c'est-à-dire les grands récits, les tragédies et finalement surtout la philosophie de l'époque. Alors, la païdéia a traversé différentes étapes historiques. Très rapidement, elle émerge chez Platon dans son débat avec les sophistes. Les sophistes qui nous proposent finalement, elle revient beaucoup, une philosophie de la violence, une philosophie de la séduction et une philosophie de l'opinion publique. Et Platon y oppose une philosophie de l'éducation. Une philosophie de l'éducation. Et avec quand même la question qui traverse l'œuvre de Platon, est-il réaliste d'attendre de l'éducation qu'elle réussisse à dépasser l'injustice et la violence? Qui est la même question de la Renaissance, des Lumières, du XIXe siècle et encore d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Quelle place donner à l'éducation? Et le procès de Socrate ne conduit pas Platon à mettre en question l'idéal de l'éducation, mais plutôt à militer pour un changement de l'État. Changer l'État. Bon, ouais, vous voyez, c'est très actuel aussi. Hein. Voilà, à partir de l'éducation. Hein. Donc, il y a chez Platon une analogie entre le corps individuel et son éducation, d'un côté, et l'État et sa transformation de l'autre. Voilà l'arrière-plan. Alors, c'est le schéma anthropologique sous-jacent à cet itinéraire d'éducation, ce schéma anthropologique sous-jacent à cet itinéraire d'éducation et de transformation, on le trouve évidemment dans toute l'histoire, je viens de le dire, de l'Occident. Le terme principal, donc vous pouvez revenir ici aussi de nouveau à la page 21 de votre polycopie, le terme principal, quelques explications de termes, l'esprit dans cet univers n'est pas susceptible d'une définition positive, mais il désigne une opération de négation. Ça, c'est l'esprit. Donc, l'esprit, c'est un travail. C'est un travail, c'est une sorte d'ascèse, vous voyez, de détachement de, pour s'attacher à. Vous voyez. L'esprit, c'est ça. C'est une opération de négation. Portant sur le champ de l'expérience plus immédiate, sur le sensible, sur les sens, voilà, sur l'ensemble du corps de l'être humain, dont les sens assurent la communication avec l'environnement. La négation de l'expérience immédiate du sensible et des passions prend la double figure à cette époque, et ça sera décisif pour la reprise chrétienne à l'époque, à la fois la figure d'un détachement méthodique, donc il y a des techniques, des exercices ascétiques dans ce type de philosophie, et d'une ascension vers le sommet. L'idée d'ascension, ascension vers un sommet de pure vacuité par rapport à tout sensible, où l'instant d'un éclair, exaiphnes, c'est le formule de la septième lettre, la célèbre formule de Platon dans sa septième lettre, qui sera beaucoup, beaucoup reprise à l'époque aussi par les chrétiens, c'est-à-dire où l'instant d'un éclair, la perception de l'un va peu se produire, comme fugace vision de l'essence divine. Alors, il y a des images qui sont utilisées pour décrire ce but, donc détachement et sommet. Le but, c'est la vision, la théorie ou la contemplation, et donc avec l'idéal contemplatif comme idéal central, pour transformer le monde. L'homme, comme dit Feuerbach, se trouve évidemment encore dans une condition d'assujettissement au monde et il ne peut échapper à cette nécessité, à ce destin, que par la contemplation. Il n'y a pas encore l'idée de transformation effective du monde, mais ce n'est donné qu'à une sorte d'élite. Alors, je vous ai mis aussi les ressorts de cette pédagogie, l'imitation, la mimésis d'exemple, voilà. Et il y a quelque chose de tout à fait décisif qu'on trouve dans la tradition stoïcienne, qui va beaucoup influencer la tradition chrétienne depuis les débuts, chez Sénèque, avec des formulations qui s'approchent du serment sur la montagne. Savoir comme Dieu, donner ses biens aux malfaiteurs. Vous avez là donc cet idéal aussi d'une certaine générosité, d'une non-violence, qui a séduit évidemment les chrétiens qui ont fait des associations entre le stoïcisme et les béatitudes. Selon Sénèque, l'homme est même capable de dépasser Dieu. Alors ça, c'est un point très très important qu'on retrouve aussi, je dirais, aujourd'hui comme un point critique du christianisme. Dieu ne craint pas grâce à sa nature, dit Sénèque. Mais l'homme craint à cause de sa faiblesse. Ceci est quelque chose de très grand, d'avoir la faiblesse d'un homme et la certitude d'un Dieu. Dieu n'a pas épargné l'homme de la faiblesse ou du mal, mais il lui a donné un cœur capable de courage et de patience. C'est par l'acquisition de cette tranquillité divine de l'âme que l'homme peut moralement dépasser Dieu. Vous trouvez ça dans la lettre 53 de Sénèque. Voilà. Donc la païdéia divine trouve ici son aboutissement ultime. Et aussi évidemment le point de distance par rapport à la tradition chrétienne qui émerge précisément ici. On comprend ici, si vous voulez, je dirais deux choses. On comprend d'abord pourquoi le christianisme primitif, le christianisme des pères, l'église des pères, s'est tellement intéressé à cette païdéia, qui est donc son soubassement anthropologique. Et encore une fois, jusqu'à Augustin, et jusqu'à Pélage. Donc, je donne les noms. Clément d'Alexandrie, Origène, Grégoire de Nice, etc. Et avec Augustin, nous sommes au point culminant de cette reprise anthropologique, au point culminant dans les confessions. Et même si je dis point culminant, c'est les corrections qui vont ici évidemment intervenir. Donc il y a quatre points de correction. Premièrement, la doctrine de la création rend impossible l'idée que l'homme puisse devenir l'égal de Dieu, voire le dépasser. Voilà. Ça c'est clair. Ça, c'est la première différence radicale. Ensuite, dans la tradition biblique, le combat spirituel est beaucoup plus radical. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte contre l'immédiateté sensible des passions. Il ne s'agit même pas cela d'abord, mais il s'agit du combat contre l'ennemi du genre humain qui s'insinue dans la volonté humaine. Donc c'est un combat au niveau de l'intériorité d'abord, au niveau du cœur, et non pas d'abord un combat contre le sensible. Même si on peut parfois, je dirais chez Augustin, avoir l'idée, vous voyez avec la citation de Romains 13, que les deux se mélangent. Mais si on regarde de très près, le cœur du combat, c'est quand même le combat du cœur. Voilà. Et c'est-à-dire au niveau du discernement intérieur de ce qui se passe dans ma volonté. Donc ça c'est, si vous voulez, la deuxième grande différence. Le Dieu des chrétiens se distingue fondamentalement du bien et de l'un néoplatonicien. Alors là, on voit ça dans la vie de Moïse, la vie de Moïse, de Grégoire de Nice, qui est un de ceux qui est peut-être le plus dans le monde hellénistique du IVe siècle, qui était le plus marqué par l'hellénisme. Certes, la vie chrétienne est l'imitatio naturae Dei, une imitation de la nature de Dieu. Mais la grandeur de Dieu ne consiste pas dans ses œuvres de puissance, mais dans sa miséricorde incompréhensible et dans sa condescendance. Donc ça, c'est ce terme qui va venir à ce moment sous la plume des pères, la condescendance, notamment ensuite chez Chrysostome, la condescendance dans laquelle il a assumé par Jésus le Christ la faiblesse de la nature humaine. Cette correction transforme la mimésis grecque, toujours tentée par un secret orgueil et par un élitisme, en sa racine même, la mettant sous le signe de l'humilité et de la condescendance. Voilà, ça c'est le troisième point de différence par rapport à la paideia, par rapport à la paideia grecque. L'hymne aux Philippiens, vous voyez, qui va intervenir ici en christologie et en anthropologie. Et finalement, le dernier point, peut-être moins important, mais je dis à l'époque assez important pour nous, ce qu'on appelle une doctrine physique de la rédemption. La rédemption de cette doctrine souligne le lien ontologique entre le logos fécher et l'humanité tout entière. Vous voyez, c'est des grands hymnes christologiques, l'épître aux Colossiens, l'épître aux Éphésiens. Au fond, depuis le début, la création par Dieu est en vue de l'union entre le Logos et la chair dans l'incarnation du Christ. Et ça, ça nous précède toujours, toujours. Le baptême en est l'actualisation. Voilà, si vous voulez, je dirais les différences. Alors, je vais juste un tout petit peu pour finir anticiper pour que vous voyez un peu la ligne de l'argumentation. Donc, à partir de cela, il est relativement facile, si vous voulez, de comprendre l'insistance de Pélage, qui deviendra le pélagianisme. C'est-à-dire, au fond, lui, il va pousser, je veux dire, il va nous proposer une sorte de paideia grecque à la chrétienne, mais qui ultimement conduit vers une sorte de d'héroïsme, vous voyez, le d'héroïsme chrétien. Et face à ça, Augustin, on l'appellera aussi le docteur de la grâce, va insister sur l'incontournable grâce, c'est-à-dire sur l'initiative de Dieu même dans la venue du salut. C'est-à-dire, il va insister sur ce que j'ai appelé dans la partie biblique l'excès, c'est-à-dire la gratuité absolue qui est la seule chose qui peut faire sortir l'homme du dilemme de sa propre volonté malade, etc. Donc, on va voir ça la prochaine fois, donc le lundi prochain, assez rapidement. Je vous invite quand même peut-être d'ici là de regarder un peu les textes que vous trouvez donc à la page, donc dans l'annexe 5 et l'annexe 6. Vous avez là un extrait du traité de la Trinité qui est au fond, à mon avis, le meilleur, la moins compliquée reprise de la théologie de la grâce d'Augustin. Voilà, un deuxième extrait. Et ensuite, vous avez les deux extraits clés des deux conciles. On va pas passer beaucoup de temps avec les détails. C'est pour ça que je vous invite de lire. Mais je crois que j'ai déjà expliqué un peu l'essentiel. Voilà, bonne semaine.